Voilà, donc on se retrouve pour une nouvelle émission des Périphériques vous parle. C'est une émission qui va revêtir un caractère donc plus ancré dans l'actualité économique, politique, sociale et financière, après avoir fait deux émissions consécutives consacrées au vin naturel. Donc j'accueille pour cette émission Jean-Luc Ménard, avec qui nous avions fait déjà il y a quelque temps le cycle pour un autre Grenelle de l'environnement. Grand spécialiste des questions attenantes au réchauffement climatique, à la gestion alternative des ressources sur la planète, et qui s'est penché pour nous sur les ressorts de cette crise financière qui s'éternise, bien que Jean-Luc vous dites que cette crise financière n'a pas encore commencé, ce qui est d'autant plus inquiétant.
Peut-être.
Voilà. Alors peut-être pour introduire, j'aimerais faire le raccord avec ce qui s'est passé lors d'une réunion co-organisée par les Périphériques vous parle, une grande manifestation qui s'est déroulée à la Maison des Métallos, c'était samedi dernier, qui a d'ailleurs été au demeurant une grande réussite pour ceux qui n'ont pu y participer, il y a plus de 300 personnes, c'était donc un pont. Et lors de cette émission, enfin de cette manifestation, il y avait entre autres intervenants un ami, donc par discrétion je ne citerai pas son nom, qui est donc de Sud Caisse d'Épargne. Et il présentait notamment un rapport, entre autres, sur la souffrance au travail, avec une enquête menée auprès de 4000 salariés de la Caisse d'Épargne. Alors, il y a effectivement la souffrance au travail en tant que phénomène endémique du monde du travail actuel, mais il faut voir aussi qu'il y a des explications un peu plus subtiles par rapport à la manière dont cette souffrance aujourd'hui, par quoi elle est motivée. Et entre autres choses, je parle de ça parce que ça va nous introduire à notre sujet sur la crise financière. Pour quelqu'un comme lui qui travaille au sein d'un établissement bancaire qui avait une vocation coopérative, à l'origine, il s'est produit à son sens depuis, c'est sa position de syndicalisme, il s'est produit à son sens depuis quelques années une dénaturation du service aux clients par la multiplication au sein de la Caisse d'Épargne pour augmenter la profitabilité de l'entreprise. Il s'est produit une sorte de démultiplication d'invention de produits financiers qui apparaissent comme autant de prestations lucratives proposées aux clients et souvent d'ailleurs à des clients un peu crédules et très vulnérables comme des retraités par exemple.
Oui, tout
vous
à fait.
Vous ne savez pas quoi faire de votre argent, placez-le. Donc cette tendance à essayer d'optimiser toute forme d'argent dormant, de l'optimiser en le mutant en placement apparemment soi-disant lucratif. Et la conclusion que tire Patrick Sorin, c'est qu'il y a un mal-être pour beaucoup de cadres ou d'employés au guichet ou d'employés de banque dans les agences de la Caisse d'Épargne, compte tenu du fait que avant on avait la notion de service au client, de gestion d'un compte bancaire, de conseil, et maintenant de plus en plus ils ont le sentiment d'être fourvoyés comme des vendeurs de vent, comme des gens qui vont essayer de placer, de vendre des produits financiers bidons dont la rentabilité est peu fiable pour ceux qui créent les clients crédules qui, à un moment donné, font confiance au conseil, au soi-disant conseil, justement, de leur conseiller bancaire. Donc, alors ça produit un mal-être, ça produit justement une perte d'éthique dans l'exercice du métier des banques. Et je crois qu'à travers cet exemple-là, on a le reflet d'une situation économique plus globale qui s'est matérialisée depuis quelques mois avec ces crises financières à répétition. Et c'est ce dont on va parler avec Jean-Luc, qui s'est penché sur la question, parce qu'on est dans un scénario qui était le suivant, donc crise financière notoire, épongement de la dette par les États avec réinjection d'argent frais par les États pour éviter la faillite bancaire. Et justement, Jean-Luc, vous nous dites que d'une part, on va commencer peut-être par cela, que des faillites massives sont toujours possibles, même si on pense que les plus graves sont déjà derrière nous.
Oui, absolument. Il y a en gros trois foyers de faillite possibles. Il y a les banques par lesquelles on va commencer. Il y a les États. Et il y a également les particuliers. Alors, pour ce qui concerne les banques, hein, justement, par rapport à votre propos, le revers de ce que vous avez dit dans le mal-être du travail dans les banques, ce sont effectivement des produits financiers hautement spéculatifs et hautement risqués, et qui, à fin 2007, pour l'ensemble des banques mondiales, avait atteint environ 400 000 milliards de dollars. Alors, c'est à comparer avec le produit intérieur brut mondial, donc les richesses réellement créées par les 191 États, qui, à fin 2007, étaient de 62 000 milliards de dollars. Donc, un écart d'environ, même un peu plus, de 6. Et effectivement, des faillites massives sont toujours possibles dans les banques parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, ces 400 000 milliards de dollars de produits hautement spéculatifs, ils en valent en fait 20 000. Et donc, une division par 20. Mais les banques, elles, à l'échelle planétaire, elles doivent à leurs clients, à leurs déposants, 65 000 milliards de dollars, puisque en effet... les comptes bancaires des particuliers, des entreprises, représentent cette somme. Donc elles se retrouvent avec des actifs qui avaient été survalorisés et qui sont maintenant sans marché, et qui donc sont à peu près à 20 000 milliards de dollars, valeur actuelle. Elles ont environ, ces banques planétaires, 10 000 milliards de capitaux propres, de réserves, de provisions. Donc ça fait 30 000 milliards de dollars pour 65 000 milliards de dollars de dépôts. Ce qui fait qu'elles ont appelé donc les États à l'aide. Les banquiers ont tout à fait paniqué avec ça. Et ces derniers mois, les États, l'ensemble des États planétaires, a fourni 9 000 milliards de dollars aux banques, plus des garanties sur environ 10 000 milliards de dollars. Donc tout cela a permis de sauver un petit peu les meubles, si l'on peut dire, puisque la panique bancaire a été évitée. Les déposants ne se sont pas rués vers les guichets, voyant que les États s'engageaient donc aux côtés des banques, ce qui fait que pour l'instant c'est évité, mais un exemple historique, c'est la crise de 1929. C'est en 1933 que 770 banques américaines ont fait faillite. Ce n'est pas en 1929. Donc, il est toujours possible, là, même si cela peut très bien ne pas arriver, mais il est toujours possible que ce premier foyer de crise financière soit les banques. Bon, donc ça, c'est le premier, la première possibilité de faillite financière. Et comme vous l'avez rappelé en introduction, effectivement, les États ont repris massivement, du coup, ces problèmes bancaires, puisque finalement les banques ont réussi en paniquant vers l'automne 2008 à faire reprendre, à transférer finalement leurs problèmes financiers aux États, qui effectivement se sont considérablement endettés. Et du coup, cela fait un deuxième foyer de faillite financière possible. En effet, les marchés financiers, voyant que les États sont quand même assez endettés et vont peut-être pour certains avoir du mal à rembourser, peuvent très bien arrêter de prêter. Et alors, à telle enseigne que, par exemple, pour citer trois pays, en janvier 2009, l'Allemagne comptait emprunter 6 milliards d'euros, elle n'a pu en emprunter que 4. En mars 2009, la Grande-Bretagne souhaitait faire un emprunt relativement modeste, 4 milliards d'euros aussi, mais une partie n'a pas pu être souscrite et les marchés financiers ont clairement signifié à Gordon Brown que désormais il ne faudrait plus tellement compter emprunter. Alors pourquoi cela concernant la Grande-Bretagne ? Eh bien parce que la Grande-Bretagne, du fait de cet endettement massif, a exactement les mêmes besoins de financement qu'en 1945. C'est-à-dire qu'en 1945, il était normal que la Grande-Bretagne eût un gros besoin de financement. Elle avait eu sur son sol un million de soldats américains pendant deux ans avant le débarquement. Hein, elle avait eu des destructions massives suite au bombardement et puis au V1, au V2. Mais qu'en 2009, elle ait exactement les mêmes besoins de financement qu'au sortir d'une guerre, montre bien quand même l'état dans lequel la spéculation financière, bancaire, transférée à l'état anglais, ça montre bien sa puissance.
D'accord. Alors j'aurais peut-être un petit nœud du problème qu'on pourrait aborder, dont on a parlé beaucoup dans les médias, dans l'actualité ces derniers mois. Effectivement, les critiques ironiques en disant voilà un système financier sous ponction étatique, un grand paradoxe. D'autre part, vous dites que les États épongent les faillites bancaires et donc en même temps, ce ne sont pas les actionnaires qui épongent cette faillite bancaire. En même temps, on a des actionnaires qui ont perdu de l'argent. Bon, certains ont été carrément sur la paille aussi.
Oui,
on peut le dire. Enfin, on précisera ça.
Oui.
Oui, oui. Après, par ailleurs, je viens de lire sur Le Monde justement le fait qu'il y avait mention, au contraire de ces faillites, une explosion du chiffre, du bénéfice de Paribas, par exemple. Paribas disant que les banques qui avaient été justement alimentées par les États rembourseraient leurs dettes une fois sorties de la mouise.
Oui, oui.
Bon, ça, voilà, donc on peut mémoriser cette analyse, ou en tout cas cette bonne intention. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, à la fois, et en même temps, on a l'argument qui a toujours dit, effectivement, même des gens qui n'ont pas en odeur de sainteté le système financier disent, mais s'il n'y avait pas eu recours à l'argent de l'État, à l'argent public pour éponger la dette de ces banques, ça aurait été tous les petits épargnants, ça aurait été, voilà, qui auraient coulé.
Oui.
Donc, haute nécessité à ce que, même si ça peut sembler paradoxal, l'État intervienne indirectement par ce biais en faveur des particuliers eux-mêmes, en tout cas de tous les gens qui ont
commenté. Pour reprendre chacun de vos propos, puisque j'en vois trois, tout d'abord, effectivement, la diminution des valeurs d'actifs spéculatifs bancaires devait être prise en charge par les actionnaires. C'est-à-dire que ces actifs devaient être transformés en actions. Et malheureusement, aucun parti politique sur la planète n'a fait cette proposition. Seuls des analystes tels Nouriel Roubini, un Américain, ou un Britannique comme Martin Wolf, et d'autres, ont fait cette suggestion, et ça, c'était, et c'est toujours d'ailleurs, la bonne solution. Mmh. Pour ce qui concerne la ruée vers l'État, bien sûr, ça a évité la faillite des épargnants, mais la faillite d'un État, c'est la faillite de tous ses habitants. C'est-à-dire que les États prennent le risque, vu une éventuelle défiance des marchés financiers, j'en ai cité deux exemples, mais on peut également ajouter, toujours en mars 2009, l'exemple du Premier ministre chinois qui, pour la première fois publiquement, a émis des doutes sur la capacité financière des États-Unis à continuer à honorer les 653 milliards de bons du Trésor que la Chine a, de bons du Trésor américain. Donc tout ça installe quand même une possibilité de faillite d'État. Or, dans une faillite d'État, qu'est-ce qui se passe? Par le biais des compagnies d'assurance, les compagnies d'assurance planétaire ne sont pas dans un meilleur état que les banques. Elles ont environ 25 000 milliards de dollars d'engagement et elles ont en capitaux, réserves et provisions 1 500 milliards de dollars. C'est-à-dire qu'elles sont... Ce qu'elles doivent représente 17 fois ce qu'elles ont. Alors, quand un État fait faillite, les compagnies d'assurance sont également faillites. Parce que les produits financiers, comme les assurances-vie, par exemple, et d'autres aussi, ce sont des produits qui sont indexés sur les emprunts d'État. Et donc, un État qui fait faillite, ses emprunts d'État ne valent plus rien, et les produits financiers considérés comme sûrs ne valent plus rien non plus. Par conséquent, on a une faillite des compagnies d'assurance du pays. Et ensuite, eh bien, ce qui se passe, c'est qu'on a une faillite des entreprises du pays. Parce que les compagnies d'assurance ne pouvant plus assurer les dommages des activités professionnelles des entreprises, les entreprises ferment leurs portes. Et donc, en fait, une faillite d'État, c'est la faillite de tout le monde. Alors que si on avait laissé les banques faire faillite, c'était la faillite des seuls épargnants. Donc ce n'est pas tout à fait pareil.
Ouais, mais y compris des gens qui ont un compte bancaire, comme n'importe qui.
Oui, ceci étant, les États auraient pu garantir les comptes bancaires seulement.
Oui, ouais.
Mais pas garantir les 440 000 milliards, même si cette valeur a été divisée
oui,
par
ça aurait 20. Été la faillite des gros épargnants, dirons-nous.
Voilà, voilà. Et surtout, hein, des produits financiers très risqués et très spéculatifs. Qui continue d'exister tel quel, comme on le verra dans la deuxième partie de cette émission.
Ouais. Est-ce qu'on pourrait voir ensemble justement qu'est-ce qu'on appelle, de revenir un peu sur ce terme très très curieux, la titrisation.
Oui, alors on le verra. J'en citerai des exemples tout à l'heure. Mais la titrisation, c'est tout simplement sur des emprunts. Hein, entre alors des emprunts très variés, hein, ça peut être des emprunts d'entreprises, d'État, de particuliers, etc. Tout simplement, les banques vendent des paquets d'emprunts, hein, donc elles émettent un titre, hein, et elles en demeurent toujours gestionnaires, c'est-à-dire que leurs clients ne savent pas que leurs emprunts qu'ils ont souscrits auprès de cette banque finalement a été vendu à un investisseur, qui lui donc en récupère les revenus. Et tout ce qui est attaché. Donc c'est ça la titrisation. Mais on y reviendra dans la deuxième partie. Cette émission, je citerai des produits financiers, des produits dits dérivés. Alors, pour en revenir donc à ce deuxième risque, les États, la grande différence, c'est que quand des banques font faillite, ce sont les épargnants de ces banques qui font faillite qui trinquent. Mais quand les États font faillite, c'est tout le monde qui trinque. Donc il n'est pas vraiment très judicieux que les États se soient vus transférer tous ces problèmes financiers bancaires. La meilleure solution, c'était que les actionnaires les prissent en charge. Ça n'a pas été le cas. Et la solution autre, c'était que les États ne garantissent que les comptes bancaires. Et encore jusqu'à un certain seuil.
Ouais. Parce que ce qui est avancé justement par les gouvernements par rapport à cette prise en charge, cette compensation allouée aux établissements bancaires en faillite, c'est-à-dire que si ça ne se faisait pas, il y aurait des conséquences économiques encore bien plus grandes que...
Oui, mais bon, ça c'est vraiment de la propagande bancaire, hein, c'est tout. Les conséquences, ce serait pour les épargnants, des banques qui font faillite. En revanche, pour les États, c'est tout le monde. Et à tel point d'ailleurs, le problème de la défiance des marchés financiers par rapport à des États très endettés, voire surendettés, c'est que en 2014, avec l'endettement actuel, les 20 premiers États, les 20 États les plus riches, auront une dette équivalente à 100% de leur produit intérieur brut. Parce que par le jeu des taux d'intérêt et des primes de risque, dont les banques ne parlent pas, mais les banques font payer des primes de risque très importantes aux États, pour que justement ils puissent éponger leur propre turpitude, en quelque sorte. Ouais. Les primes de risque ont été multipliées par 7. Alors, donc à tel point qu'il y a des défiances, déjà, et que les États conscients du danger, eh bien, commencent à transférer vers les particuliers, finalement, les problèmes bancaires.
Oui, on a eu la compression là de la rémunération du livret A récemment. Là.
Oui, mais ça encore, c'est pas très grave.
Oui.
Alors, je vais prendre trois exemples de trois États qui ont décidé donc de transmettre ce fardeau financier à leur population. Alors, l'Irlande, tout d'abord. L'Irlande a mis en place donc un plan qui est en action. L'Irlande, les dirigeants irlandais ne touchent pas aux impôts des entreprises, puisque comme les banques, les entreprises sont également épargnées. Il reste cet impôt à 12,5%, ce qui est très faible. En revanche, les particuliers voient leur impôt sur le revenu multiplié par 2. Et les personnes qui n'étaient pas imposables avant, donc des personnes avec de très faibles revenus, eh bien désormais devront payer 7 euros d'impôt par semaine.
Ouais.
Même quand on a 500 euros de revenus par mois.
Oui, donc en plus, ce qui est l'argument libéral, c'est-à-dire si on pénalise les employeurs potentiels avec un taux d'impôt, ça les empêchera soit d'embaucher, soit de maintenir...
Voilà, seulement si on pénalise beaucoup trop les gens, ça les empêchera de consommer et il n'y aura pas d'emprise économique.
Oui, tout à fait.
Bon, alors ça, c'est le premier exemple. Deuxième exemple, Et ça donne l'occasion d'aborder l'aide, entre guillemets, du FMI, hein, qui a été saluée alors par le G20 et par tous les médias comme quelque chose d'extraordinaire. Ce deuxième exemple, c'est la Lettonie. En Lettonie, le FMI a donc prêté de l'argent. Hein, et évidemment, hein, que l'aide du FMI, ce sont des prêts. Ce n'est pas du tout de l'argent donné. Et le FMI exige, hein, des réformes. Hein. Et en Lettonie, en l'occurrence, eh bien, il a exigé des coupes budgétaires, hein, d'en moyenne de 30% pour absolument tous les ministères. Hein, et donc, évidemment, aussi, hein, pour les prestations sociales, pour les prestations maladie, pour les retraites également, hein, puisque même les retraités qui en Lettonie, quand ils touchent 300 euros par mois, c'est beaucoup. Mmh. Même eux vont devoir contribuer, hein, c'est le FMI qui l'a exigé. Hein. Bon, donc deuxième exemple, hein, de ce transfert de graves ennuis financiers bancaires vers les populations via les États. Hein. Et troisième exemple, hein, la Grande-Bretagne, hein, qui, elle, a décidé d'imposer à la population, en plus des impôts, taxes et cotisations qu'ils payent déjà, une somme forfaitaire de 1260 euros par foyer fiscal et par an, et pendant plusieurs années. Donc en fait, hein, finalement, on voit que, vu le danger que représente une faillite d'État, hein, alors que les faillites bancaires sont moins dangereuses, eh bien, ceux-ci, les États, décident, hein, de reporter donc vers les gens, hein, finalement, le règlement de cette crise financière qui n'a pas encore commencé, mais qui, quand même, a donné des endettements étatiques. Et par ailleurs, le danger de reporter vers les gens, c'est que de nombreux pays connaissent des taux d'endettement de particuliers très élevés.
Mmh. On en a parlé encore récemment, ça.
Voilà. Ouais. Ah, parce que dans de nombreux pays, l'endettement des particuliers représente entre 60 et 100% du produit intérieur brut du pays. Hein. Alors, on peut citer, hein, entre autres, hein, l'Australie, les trois pays baltes, l'Allemagne, l'Espagne, l'Irlande, la Hongrie, le Vietnam, les USA, la Grande-Bretagne, et puis également le Danemark, par exemple. Mmh. Hein, et entre autres. Hein. Ce qui fait que la troisième source de faillite financière, ça peut être les particuliers, parce que ils vont avoir des impôts en plus ou des prestations en moins qu'ils vont devoir financer eux-mêmes, hein, des prestations d'éducation, par exemple. Hein. Et en même temps, ils sont très endettés. Donc il peut y avoir là encore des faillites, hein, massives de particuliers, parce que dans la mesure où il y a 150 États à peu près qui sont endettés actuellement, il va y avoir 150 plans de rigueur. Et les plans de rigueur, ça va être les 150 habitants des pays qui vont les payer. Et donc, parmi ceux-ci, y en a beaucoup qui ont un taux d'endettement, hein, assez élevé. Donc, là encore, il va y avoir un risque, hein, de faillite financière. Mmh. Hein, donc, voilà un peu le schéma. Hein, on n'a pas voulu faire payer les actionnaires. On n'a pas voulu se limiter à garantir seulement les comptes bancaires. Les problèmes financiers bancaires ont été transférés aux États, qui, à leur tour, les transfèrent aux gens. Mmh.
Est-ce que c'est systématique pour les États qui ont contribué de les transférer de cette même manière ? Parce que vous avez donné un certain nombre d'exemples. Mais est-ce qu'il y a eu d'autres...
Comment on peut
analyser, par exemple, la situation en France par rapport
C'est ce qui va être mis en place en France, puisque la France fait partie des 150 États qui sont soit... très endettés, soit surendettés. Et donc la France, comme les autres pays, n'auront pas d'autre choix.
Oui.
Parce que sinon, les marchés financiers ne vont pas continuer à renouveler leurs prêts. Hein, c'est très simple, hein, c'est ça la menace qui pèse sur les États. Et comme on l'a vu, en cas de faillite d'État, c'est en fait tout le monde qui trinque. Hein, donc en fait, il vaudrait mieux des faillites bancaires plutôt que des faillites d'État. Et il vaudrait mieux des faillites bancaires plutôt que de faire prendre en charge par les gens l'ensemble des problèmes bancaires.
Ouais.
Hein, bon. Mais effectivement, hein, là déjà, le ministre du budget français a clairement dit que pour 2010, il y aura un gel des crédits. Bon, c'est un signe prémonitoire. Y a aucun doute là-dessus qu'en France comme ailleurs, hein, dans les 150 États qui se sont endettés pour souvent venir au secours des banques, hein, qui étaient parfois endetté depuis plusieurs années aussi, bien sûr. Mais ça s'est ajouté. Hein, par exemple, pour l'exemple français, en décembre 2008, la dette de la France représentait 40 milliards d'euros. En janvier 2009, c'était 100 milliards d'euros. Bon, et il y a eu beaucoup de choses de cette nature qui se sont passées dans des dizaines d'États. Et donc, à part les plans de rigueur, qui vont succéder très rapidement au plan de relance, il n'y a pas d'autre solution. Mais comme des dizaines d'États vont avoir ces plans de rigueur en même temps, il est peu probable qu'il y ait une reprise économique. Puisque, évidemment, l'élément de la consommation ne va pas être là, puisque les gens vont devoir payer plus ou avoir moins d'argent et de pouvoir d'achat. Et donc, forcément, la reprise économique, elle a lieu, elle aura lieu dans plusieurs années.
Alors, ce que je vous propose, Jean-Luc, on va faire une pause musicale. D'ailleurs, je remercie Julien, l'opération Kangourou, notre compagnon rose des
Indopédésis
et Veritas, qui reviendront, que nous retrouverons en juin. Nous allons faire une petite pause musicale, une pause tonique, et nous reprendrons notre émission avec Jean-Luc Ménard, donc sur la crise financière. Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 pour l'émission des périphériques vous parlent.